Je voudrais vous parler d'un grand miracle qui s'est déroulé à Lourdes le 8 octobre 1948 et qui a été reconnu par l'Église le 20 novembre 1950, il y a donc 45 ans aujourd'hui. C'est ce miracle qui a entouré Jeanne Fretel, qui était née en 1914 et qui venait de Rennes. Et elle a été convertie en recevant l'Eucharistie. C'est donc un miracle eucharistique qui peut nous aider à mieux croire à ce dogme extrêmement difficile de la présence particulière du Christ dans l'Eucharistie, dans une hostie, dans ce vin qui est devenu son sang. Il ne s'agit pas évidemment, comme me disait mon petit-fils, du cannibalisme, pas du tout. Il s'agit d'une union, d'une union, d'une fusion. Et c'est très beau, c'est très grand que ce dogme. Et je vous en parle à la veille de la fête de la présentation de la Vierge Marie, qui est une fête célébrée tant chez les orthodoxes que dans l'Église catholique, en même temps, le même jour, mais qui n'a pas de fondement dans les Saintes Écritures. Mais c'est une fête intéressante quand même, qui nous rappelle les origines juives de notre religion. Et c'est très important d'y revenir de temps en temps, pour rendre témoignage à tous ceux qui ont porté la foi avant la venue de Jésus, ces juifs fidèles, malgré toutes les difficultés, et qui le sont demeurés, ceux qui n'ont pas adhéré au Messie Jésus, et nous devons un grand respect pour leur foi, qui est demeurée à leur avis intacte. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Voici donc pour ce qui est de la présentation de la Vierge Marie qu'on peut commencer à célébrer ce soir. Je vous ai dit que c'était une fête qui est célébrée solennellement dans l'Église orthodoxe et qui est célébrée aussi chez nous. Elle est particulièrement célébrée aujourd'hui, demain, à compter de ce soir, au Grand Séminaire de Montréal, dont la très belle chapelle, magnifique chapelle, immense, on dirait une chapelle de monastère avec des stalles de chaque côté, ce pavage en mosaïque absolument superbe, le plafond de poutres entrecroisées, toute cette pierre jaune qui vient de Caen, des beaux vitraux en grisaille, et au fond de l'abside, en haut, on voit la présentation de Marie au temple. C'est un symbole, évidemment, de l'entrée d'un séminariste, d'un jeune homme, autrefois qui entrait très nombreux, mais qui sont encore, un certain nombre de séminaristes quand même aujourd'hui encore, malgré toutes les difficultés de l'Église à travers le monde, et chez nous en particulier. Et nous devons penser à ces hommes qui se destinent au sacerdoce, et qui courageusement affrontent les difficultés de la vie paroissiale, où ils seront probablement curés après à peine un an ou deux de sacerdoce, étant donné qu'on manque tellement de prêtres. Alors on voit sur cette peinture au fond de l'abside de la chapelle du Grand Séminaire, Marie, qui monte les marches du temple et qui est reçue par le grand prêtre. C'est une pieuse tradition, hein, qui nous vient de deux écrits. L'un est attribué à Saint Jacques et l'autre à Saint Matthieu. Vous savez que ce sont des textes apocryphes. Je vous parlerai de ça un jour pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Ce sont des textes qui ne sont pas dans ce qu'on appelle le canon des Écritures, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnus comme des écrits canoniques, des écrits acceptés officiellement par l'Église depuis des siècles et des siècles, et qui sont quand même intéressants sous certains rapports. Donc l'un attribué à Saint Jacques et l'autre à Saint Matthieu, Et on voit là le récit de la présentation de Marie au temple de Jérusalem. Or, qu'est-ce que nous disent ces textes? Anne et Joachim, que nous avons fêté ensemble le 26 juillet, je vous en ai parlé longtemps, je fais toute une émission sur Sainte Anne, eh bien, ils avaient attendu longtemps la naissance de cet enfant. Ils avaient fait le vœu de la consacrer au Seigneur dès ses 3 ans. Alors elle y aurait été accueillie par le grand prêtre Zacharie et y aurait vécu cloîtrée. C'est une pieuse légende qui fait l'objet, en somme, d'une fête liturgique. C'est évidemment parce qu'elle a un sens symbolique sur lequel l'Église nous propose de méditer. Et dans ces récits, bien, il est dit que la petite fille a gravi, comme je vous ai dit, les degrés du temple, sans se retourner, c'est sympathique, hein? Sans se retourner. C'est un exemple à nous, quand nous décidons vraiment de nous convertir, quand nous décidons vraiment d'adhérer à Dieu, quand nous décidons vraiment de nous consacrer à toutes sortes d'œuvres pour aider les gens qui sont en peine autour de nous, quand on se décide de faire de notre foi quelque chose de concret et de vivant, il ne faut plus se retourner. Il faut se donner, où qu'on l'en soit, dans le mariage, comme dans le célibat, dans toutes les formes d'engagement laïque, comme ceux des religieuses, des religieux, des prêtres, des évêques. Il n'y a plus de retour. On fait confiance à Dieu, sous la direction, autant que possible, de quelqu'un qui peut nous guider, un prêtre. Donc, ces symboles, on voit là la préfiguration de la scène de l'Annonciation, et Marie qui dit oui, sans se retourner, elle dit oui à Dieu, elle ne revient pas sur sa parole, et c'est ainsi qu'elle peut engendrer le Christ, le Fils de Dieu, et le donner au monde. Et c'est ainsi qu'à son exemple, en disant oui, nous pouvons nous aussi, de façon mystique, engendrer le Christ, le porter en nous pour le donner aux autres. Lui qui libère, lui qui la joie, lui qui fait rayonner les vrais sourires, les yeux brillants de joie, la paix, le don de soi, la vraie vie, quoi. Et ses parents, à Marie, l'offrent au Seigneur, mais quand on lit bien les textes, on voit que elle est arrivée, Marie, dans le lieu saint, puis elle s'échappe de leurs mains, puis elle s'offre elle-même. Et d'ailleurs, dans la liturgie de la fête de la présentation, la première lecture précise que ce mouvement constitue une réponse à un appel. C'est un appel qui est enraciné dans ce qu'on appelle le dessein éternel de Dieu, c'est-à-dire ce projet éternel que Dieu a fait à notre sujet, et au sujet particulièrement de Marie, mère de Jésus. S'il y a des gens qui trouvent que notre dévotion à Marie dans l'Église catholique est trop exagérée, je suis d'accord, elle est parfois un peu exagérée. Je l'admets, je le reconnais, et d'ailleurs, c'est dans l'office des lectures aujourd'hui que saint Augustin déclare « Sainte Marie, heureuse Marie, et pourtant l'Église vaut mieux que la Vierge Marie. Pourquoi ? Parce que Marie est une partie de l'Église, un membre éminent, un membre supérieur aux autres, mais enfin un membre du corps entier. Et s'il s'agit du corps entier, le corps est certainement davantage qu'un seul membre. » Le Seigneur est la tête et le Christ total est à la fois la tête et le corps. Bref, nous avons un chef divin, nous avons Dieu pour tête. Alors, il fait bien la distinction, et c'est saint Augustin qui parle, il ne diminue en rien la grandeur de Marie. Mais c'est très beau ce qu'il dit, très très beau. Et alors, quels que soient les événements de sa vie, qui font l'objet d'une fête aujourd'hui, Marie n'est jamais en somme que l'humble servante du Seigneur. C'est ce qui fait d'ailleurs sa grandeur, hein, l'humilité et l'adhésion totale à Dieu. Elle se tient toujours à l'ombre de son Fils, de Jésus, et l'Évangile de Luc le rappelle. Elle est aussi la première, puis la plus grande, des contemplatives du mystère de Jésus-Christ, son Fils, le mystère du salut. Et la fête de la présentation de la Vierge Marie est très, très ancienne. Elle apparaît d'abord en Orient, chez nos frères orthodoxes, où l'on en trouve des traces dès avant le 8e siècle. Et le pape Grégoire XI, qui en a entendu parler par un ambassadeur du roi de Chypre, l'a fait célébrer à Avignon, donc en France, en 1372. Et la fête s'est généralisée dans toute l'Église catholique romaine à partir de 1585, donc il y a 400 ans. Elle a inspiré toutes sortes d'artistes, tant en Orient qu'en Occident. Elle inspire encore de nos jours bien des peintres d'icônes. Et puis, on voit parfois des très belles icônes sur la présentation de Marie, des icônes très anciennes, des icônes russes ou bulgares. Très belle. Alors nous allons passer pour célébrer Marie à ce geste extraordinaire qu'elle a fait à Lourdes le 8 octobre 1948 par son intercession quand Dieu a guéri Jeanne Fretel et nous verrons dans quelques instants ce miracle. Voici donc ce miracle étonnant de Jeanne Fretel, née à Rennes le 27 mai 1914 et... Rennes, ben c'est en Bretagne. Elle était venue comme malade avec un pèlerinage qu'on appelle toujours les pèlerinages du rosaire. C'était en 1948. Elle avait donc 34 ans. Le certificat qui accompagne cette malade portait les renseignements suivants. Je préfère vous donner des détails médicaux assez précis et scientifiques assez précis. Ne soyez pas ennuyés par ces détails qui intéresseront d'abord les médecins, évidemment, les spécialistes du corps, de notre santé, mais aussi bien des gens qui s'intéressent aux maladies. Il y en a beaucoup, hein. Et il y a des gens qui sont fascinés par tous ces détails. Alors donc, voici les renseignements. Péritonite tuberculeuse. La malade a subi 7 interventions abdominales depuis 1938, donc depuis 10 ans. Depuis 3 ans, elle est complètement alitée, se nourrit très peu et les douleurs abdominales l'obligent à une immobilité presque complète. Le 10 août 1948, signé Dr Pellet. Or, elle s'est trouvée guérie subitement à Lourdes après avoir communié sur l'esplanade, sur cette grande place devant la basilique de Lourdes, le 8 octobre 1948. Et cette guérison, qui est reconnue par l'Église depuis le 20 novembre 1950, s'ajoute à la liste de ce que l'on peut appeler les miracles eucharistiques de Lourdes. Ce sont les suites d'une appendicite, 10 ans d'hôpital, hein? Voici ce qui s'est passé durant ces 10 années, de 1938 à 1948, au moment de sa guérison. Alors, Jeanne Fretel avait toujours été de santé plutôt précaire. Durant son enfance, elle avait été atteinte de rougeole, de scarlatine, de diphtérie. En janvier 1938, à la suite de douleurs au ventre qui la faisaient souffrir énormément, elle est opérée de l'appendicite à l'Hôtel Dieu de Rennes. Elle sort au bout d'un mois. Elle y retourne en août. Car elle ressent de nouveau les mêmes douleurs. Alors, de plus, le ventre augmente peu à peu de volume et sa consistance devient plus ferme, on dirait, puis pâteuse. Alors, un traitement par rayon ultraviolet amène une amélioration de son état. Jeanne va rester quelques mois dans sa famille, mais l'année suivante, en 1939, une seconde opération. En janvier, en effet, 1939, ben, notre malade, Jeanne Fretel, F-R-E-T-E-L, Jeanne Fretel, qui est à présent complètement alitée, mais se fait hospitaliser pour la 3e fois à l'Hôtel Dieu. Oui, le docteur Maruel, on a les détails, je vous les donne. C'est pour vous dire que c'est très scientifique. Tout ça a été grandement analysé dans les moindres détails par l'Église avant que l'Église ne se prononce. Donc, le docteur Maruel l'opère pour un kyste de l'ovaire tuberculeux avec adhérence. Les suites de l'opération sont satisfaisantes. La plaie se referme rapidement. Et cette amélioration sera de courte durée, car dès le mois de septembre, le ventre devient douloureux. Là, il y a des crises de plus en plus violentes. Et de 1940 à 1945, bien, le 18 mars 40, elle rentre de nouveau à l'Hôtel Dieu. Là, on traite d'abord les douleurs par l'application de vessie de glace sans aucun succès. Le chirurgien porte le diagnostic de péritonite tuberculeuse et fait, l'année suivante, au mois de mai 1941, une laparotomie. Cette opération entraîne une fistule stercorale sans amélioration de l'état général. Alors, quatre tentatives de fermeture de cette fistule resteront vaines. Alors, on fait ça en décembre 41, septembre 42, juillet 43, septembre 43. La pauvre femme est torturée, si on peut dire, par des tas d'opérations. C'est seulement en novembre 44 qu'on parvient à un résultat un peu favorable. Et Jeanne Fretel sort de l'hôpital au début de 45. Elle essaie de travailler à la porterie de la clinique Saint-Laurent à Rennes, d'où elle est. Et après deux érésipèles, en mai et en juillet 45, bien, elle doit abandonner ce travail. En octobre 45, et là, le 6 novembre de cette année 45, elle est hospitalisée de nouveau. Mais pas à l'Hôtel Dieu, elle va à Pontchaillou. Or, en 46, le 31 janvier, elle obtient d'entrer au sanatorium dans la Gironde, où elle passe en avril à celui des Landes. Et là, elle reste jusqu'au 2 décembre 1946. Donc, elle passe toute l'année dans des sanatoriums, deux sanatoriums. Et son état s'empire. Alors, pendant son séjour au sanatorium, le deuxième, elle subit deux interventions chirurgicales. Le 5 juillet 46, une première intervention pour la cure d'un hallux valgus bilatéral. Je ne sais pas ce que c'est, mais je le dis pour ceux qui comprennent. Et le 16 juillet, nouvelle intervention pour une suppuration que l'observation attribue à une ostéite du maxillaire supérieur. Puis, il ne va plus lui rester que 3 dents à la mâchoire supérieure et 6 à la mâchoire inférieure. Et là, à la suite de ces interventions successives, la malade est extrêmement fatiguée. Elle a beaucoup maigri. Au mois de décembre 46, toujours cette même année, à cause de l'aggravation progressive de son état, elle revient le 3 décembre 46 à l'hospice de Pontchaillou, où elle avait commencé son année, pour, dit-elle, y mourir. Elle était sûre de mourir. Elle reçoit l'extrême onction. Pour la seconde fois, elle l'avait reçue déjà en 1942. Et l'état général est profondément atteint. Elle n'a pas quitté le lit depuis un an. Est incapable de se lever. La température oscille entre 39,5 degrés le soir et 36 degrés le matin. Les variations de température sont énormes constamment. Hein. L'abdomen distendu laisse percevoir une espèce de masse empâtée qui est douloureuse et qui est sonore, ça c'est curieux. Et pour calmer les douleurs, on lui fait des piqûres de morphine, 6 centigrammes par jour. Alors, en avril 48, on arrive à l'année du miracle. Le 16 avril 48, le docteur Alphonse Pellé, professeur à l'école de médecine de Rennes, tente un dernier moyen. Il institue pendant 45 jours un traitement de streptomycine qui amène une certaine sédation des douleurs abdominales. Mais les vomissements, parfois noirâtres, reprennent dès le 25 avril. Je vous fais grâce de certains détails. Et là, d'août 1948 à octobre 48, donc 2 mois, note le docteur Pellé, la malade est de plus en plus fatiguée. Elle ne peut prendre que de petites quantités de liquide. Des signes méningés apparaissent, le ventre est très ballonné, très douloureux, du pus s'écoule avec abondance dans les selles ainsi que dans les vomissements accompagnés de sang noir. Et les faiblesses cardiaques sont très fréquentes et mettent en danger la vie de la malade. Tout espoir semble perdu. Et je continue ce texte du docteur Pelly. Pour la troisième fois en 5 ans, le 20 septembre 1948, la malade reçoit l'extrême onction. La température oscille tous les jours de 40 degrés le soir à 36,7 degrés le matin. Les injections de morphine sont toujours de 3 à 4 par jour et de 2 centigrammes par injection. Alors, c'est vraiment terrible, mais aucun traitement n'est tenté et Jeanne Fretel est alitée depuis le 17 octobre 1945. Ça fait donc 3 ans qu'elle est alitée. Et là, le docteur Pelly ajoute le simple effort pour s'asseoir dans son lit lui était devenu presque impossible. Donc c'est dans ces conditions qu'elle entreprend son pèlerinage à Lourdes. Et comme dit le texte du docteur Pelly, en pleine évolution de péritonite tuberculeuse avec phénomène méningé surajouté et dans un état très grave de cachexie, complètement anéanti. Hein? Alors voilà le voyage de Lourdes et la résurrection. À son départ de Lourdes, le 4 octobre 1948, Jeanne Fretel ne se rend même pas compte qu'on l'amène à Lourdes, tellement elle est à l'article de la mort. Elle a des vomissements continuels. Le docteur Ely, Ely, qui l'assiste durant le voyage, se borne à lui faire des piqûres de morphine. Il a constaté que le ventre était très ballonné, très douloureux. Alors, arrivée à Lourdes le mardi 5 octobre, Jeanne Fretel est conduite le 6 et le 7 à la messe, à la grotte et aux piscines. Mais aucune amélioration n'est constatée dans son état et, en particulier, les vomissements sont presque constants. Aucune alimentation n'est possible, les nuits sont très mauvaises. Mais le vendredi matin, 8 octobre, elle est transportée, mourante, à la messe des malades qui se célèbre à 7h30 à l'hôtel de Sainte-Bernadette. Et là, au moment de la communion, le prêtre hésite à la communier à cause de ses vomissements continuels, puis son extrême faiblesse. Et là, sur l'insistance d'un brancardier, le prêtre consent lui donner une parcelle d'hostie. Et voici le texte de la miraculée. « C'est alors, dit-elle, que je me suis senti très bien et me suis aperçu que j'étais à Lourdes. On me demanda comment ça allait. Je répondis que je me sentais très bien. J'avais toujours le ventre dur et ballonné, mais je ne souffrais plus du tout. On me donna une tasse de café au lait que je pris avec appétit et que je gardai. Et après la messe, on me conduisit à la grotte, toujours sur mon brancard. Je continuerai tout à l'heure ce miracle extraordinaire raconté par Jeanne Fretel. » Donc, je reviens sur les quelques détails que je vous ai donnés tout à l'heure. C'était au moment de la communion, à la messe à 7h30 à l'hôtel de Sainte-Bernadette à Lourdes, que le prêtre hésitait à la communier, puisqu'elle avait des vomissements, puis heureusement, il y a un brancardier qui a insisté, puis lui a donné une parcelle. Et elle avait dit, je vous l'ai lu tout à l'heure, c'est alors que je me suis senti très bien, et je me suis aperçu que j'étais à Lourdes. Là, elle se rend compte qu'elle est à Lourdes. Elle ne le savait pas, tellement elle était près de la mort. Et elle dit, on me demanda comment ça allait, je répondis que je me sentais très bien. J'avais toujours le ventre dur et ballonné, mais je ne souffrais plus du tout. On me donna une tasse de café au lait, que je pris avec appétit, que je gardai, et après la messe, on me conduisait à la grotte, toujours sur mon brancard. Et arrivé là, au bout de quelques minutes, j'eus la sensation qu'une personne me prenait sous les bras pour m'aider à m'asseoir. Et je me suis trouvé assise, je me suis retourné pour voir qui avait pu m'aider, mais je n'ai vu personne. Et aussitôt assise, j'ai eu la sensation que les mêmes mains qui m'avaient aidé à m'asseoir me prenaient les mains pour me les mettre sur le ventre. Et je me suis demandé d'abord ce qui m'arrivait, si j'étais guéri ou si je ne sortais pas d'un rêve. Et je me suis aperçu que mon ventre était redevenu normal. après l'avoir examinée, lui en donne l'autorisation et elle mange de très bon appétit. Veau avec purée, 3 morceaux de pain, elle n'avait pas fait semblable repas depuis 10 ans. Lorsque ce fut mangé, dit-elle encore, « J'avais encore faim. J'en ai demandé d'autres. On m'a rapporté autant et j'en demandais encore. C'est alors que, comme dessert, on m'apporta une assiette de semoule de riz, ne voulant pas que j'en prenne davantage. » Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça, ça passait très très bien. Et l'après-midi, bien jeune, s'est levée seule. Elle s'habille seule. Elle va aux piscines. Les piscines, vous savez, à Lourdes, il y a des espèces de piscines. C'est pas des piscines comme on l'entend en général, là. Soyez sans crainte. Ce sont des piscines où se perdent de nombreux miracles par un bain dans cette eau qui n'a rien de particulier. Elle a été analysée, il n'y a rien de particulier. C'est une question de foi, de prière et des signes que Dieu donne à l'humanité, afin que nous nous rendions compte davantage que nous sommes de toute façon des miracles, et que notre vie est un miracle, et que tout ce qui se produit dans nos vies est absolument fantastique quand on y pense 2 secondes. Et Jeanne Fretel continue son récit en disant, « Je n'avais pas marché depuis 3 ans, et je marchais alors comme je marche aujourd'hui. Arrivé aux piscines, je pris un bain debout, sans fatigue. » Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Mais le soir, elle dîne avec appétit. Elle prend de la soupe de légumes, du pâté, du pain, du dessert. Et la nuit, ne se réveille à 23 heures que pour se plaindre de la faim. C'est incroyable, elle avait encore faim. Alors, elle a mangé du pain, du beurre, de la confiture, des gâteaux, puis elle se rendort. Et là, le lendemain, le 9 octobre, bien, d'un samedi, après avoir communié à l'hôpital, on la transporte sur brancard au bureau des constatations. Ce bureau des constatations est géré par des médecins de différentes religions et même des incroyants. Car la foi ne naît pas nécessairement d'un miracle. La foi naît d'une adhésion du cœur, je dirais de l'âme, à ce qui nous semble être des évidences quand on croit. En tous les cas, elle est examinée au bureau des constatations par 5 médecins, dont le docteur Guyon de Nantes, qui est le rapporteur, et qui signe la déclaration que voici, amélioration énorme, peut-être guérison complète. Il dit bien peut-être parce que pour qu'il y ait guérison complète, il faut qu'il n'y ait pas de rémission, il faut que ce soit constant, la guérison. Et puis, il ajoute « dossier à conserver pour 1949 ». Donc, il faut revenir sur toute cette question-là l'année suivante pour vérifier. Alors, le voyage de retour à Rennes s'effectue sans fatigue pour Jeanne Fretel. Il faut noter qu'alors, les médecins du train ont voulu lui faire de la morphine afin d'éviter les accidents qui sont fréquents et graves, hein, de la démorphinisation brusque. Alors Jeanne Fretel s'y refusait absolument. Elle n'avait aucun trouble, elle était guérie. Et il n'est pas question de considérer ce fait comme miraculeux au début. Hein? Mais c'est intéressant à signaler dès le début. Alors, rentrée à Rennes le 13 octobre, Jeanne Fretel a été examinée le jour même par son médecin, le docteur Pellet, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Alors là, il écrit. Nous avons revu Mademoiselle Jeanne Fretel le jour même de son retour de Lourdes à Rennes et nous l'avons examinée. Nous avons constaté la disparition complète de tous les signes pathologiques. Nous l'avons suivie régulièrement et nous avons constaté l'amélioration continue de son état général. Son poids, qui était de 44 kilos le 5 octobre, est passé le 13 octobre à 58 kilos, donc une augmentation de 58 kilos 200. Donc, ça a augmenté de 14 kilos. Ce qui veut dire quoi? C'est pas loin de ces 25 livres, quoi. C'est absolument phénoménal. En quelques jours. En 8 jours. Alors donc, pendant les premiers jours, elle prend en somme 1 kilo 350 chaque jour. La température est normale. 36 degrés 8 le matin, puis 37,2 le soir, l'appétit, le sommeil sont très bons. Puis dès le lendemain de son retour, Jeanne Fretel a pu reprendre une vie active, tout de suite, qui s'est toujours continuée sans accident pathologique. Jamais elle n'a ressenti aucune douleur. La vie normale a repris son cours. Dans la plénitude d'une santé parfaite, et tous les jours, elle se lève à 5h30, elle se couche à 11h du soir, elle a pourtant le poste le plus fatigant de la maison, déclare le docteur Pelley. Alors, le 5 octobre 1949, donc un an plus tard, le Bureau des constatations médicales de Lourdes, composé de 28 médecins, pas des farces, 28 médecins, entre autres, les docteurs, je donne des noms, De Broise de Rennes, Taillefer de Béziers, Guyon de Nantes, qui est le rapporteur, Ricusset de Montpellier, Vadiguier de Toulouse, qui se réunissent sous la présidence docteur Leuret pour examiner la jeune fille. Alors, on note toutes sortes de détails. Bon, l'examen est terminé, les questions habituelles sont posées aux médecins présents. Et voici leur réponse. Première question, la maladie existait-elle au moment du pèlerinage? Alors, la réponse est oui. Tuberculose péritonéale avec cachexie, température. Deuxième question, la maladie a-t-elle été brusquement arrêtée alors qu'il n'y avait pas de tendance vers le mieux? Réponse, tous les symptômes sont disparus. Troisième question, y a-t-il guérison sans emploi de médicaments? Réponse, oui, sans emploi de médicaments. La streptomycine, faite pendant 6 semaines, a été cessée 4 mois avant la guérison et sans résultat. Quatrième question, n'y a-t-il aucune explication médicale à cette guérison? Réponse, unanime, non. Cinquième question, échappe-t-elle aux lois naturelles? Réponse, oui. Ensuite de quoi, le bureau, à l'unanimité, a chargé le docteur Leuret de transmettre le dossier au comité médical adjoint au Bureau des constatations médicales de Lourdes. Je vous donne tous ces détails, c'est pour vous montrer que l'Église catholique n'est pas, n'accepte pas facilement les miracles. Elle les rejette presque tous, de crainte de se tromper. Elle n'accepte que ce qui est sûr. Et en 1950, donc, le comité médical de Paris déclare guérison inexplicable. Dans sa séance du 14 mars 1950, sur le rapport du docteur Lannos, cette commission a adopté les conclusions suivantes. Je vous les lis car je crois que sur le plan scientifique c'est important. L'histoire de la maladie impressionnante, l'importance du dossier qui comprend 30 feuilles de température, 18 avant la guérison et 12 après, la qualité des médecins qui ont examiné la malade, les détails méticuleux de l'observation qui sont quotidiens pour la période d'avril à octobre 1948, au moment de la guérison, la reprise du poids, 14 kilos en un an, doivent retenir longuement l'attention et ont permis de conclure à une guérison inexplicable. Alors la commission canonique de Rennes déclare signe certain d'une intervention surnaturelle. En fait, saisie du dossier, la commission canonique, c'est-à-dire une commission d'église, instituée le 10 septembre 1950 par son éminence le cardinal Roch, aujourd'hui on dirait par monsieur le cardinal Roch, archevêque de Rennes, lui a communiqué le 8 novembre ses propres conclusions. Voici le texte. Le cas de Madame Fretel se situe dans la série des faits extraordinaires, scientifiquement inexplicables, en présence desquels on ne peut que répéter « Dieu est là ». Alors, vu les caractéristiques particulières qui ont marqué cette guérison, à savoir, bon, disparition instantanée, complète, définitive d'une maladie extrêmement grave, devant entraîner normalement la mort à brève échéance, et ce, sans aucun agent curateur, donc sans aucun médicament, si vous voulez, et sans aucune convalescence, caractère dont la présence, attestée par des médecins d'une valeur et d'une autorité incontestable, c'est le signe certain d'une intervention surnaturelle. Alors, à la demande de la commission canonique, le 20 novembre 1950, il y a 45 ans aujourd'hui, le cardinal Roch, archevêque de Rennes, a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait miraculeuse la guérison de Jeanne Fretel. Voici le dernier paragraphe de ce document. Nous reconnaissons que Jeanne Fretel, atteinte de péritonite tuberculeuse, qu'accompagnait des signes méningitiques et en état très grave de cachexie, a été guérie subitement et radicalement le 8 octobre 1948, au moment où elle communiait à l'hôtel Sainte-Bernadette à Lourdes. Et nous jugeons et déclarons que cette guérison est miraculeuse et doit être attribuée à Notre-Dame de Lourdes. Donnée à Rennes, quand on attribue une guérison à Notre-Dame de Lourdes, on veut dire à son intercession auprès de Dieu. Donnée à Rennes le 20 novembre 1950, Clément-Émile Cardinal Roch. Qu'est-ce que tout ça veut dire si ce n'est que nous devrions communier avec beaucoup plus d'intensité, de ferveur, de foi et de conviction? Oh, on n'est pas obligé de croire au miracle de Lourdes. C'est pas un dogme. Vous n'êtes pas obligé. Devant les faits évidents, vous n'êtes pas obligé de vous incliner. Aucune obligation. L'Église ne nous oblige pas à ça. Mais l'Église, après des études sérieuses avec des scientifiques, arrive à une conclusion, c'est l'église locale, l'église de Rennes, qui nous présente ce miracle comme une délicatesse de Dieu. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ces délicatesses de Dieu, nous sommes comblés de ces délicatesses 24 heures par jour, lui qui nous tient en vie, lui qui nous a créés, sortis de la matière, du sol, pour assembler toute cette matière qui forme notre corps qui pense, qui vit, qui peut prier, qui peut engendrer d'autres êtres. C'est tellement miraculeux, nous vivons dans le miracle. Et si nous y pensons deux secondes à ce que les savants nous disent, ceux qui s'intéressent beaucoup à l'écologie et à l'organisation de cette planète sur laquelle nous sommes, c'est tellement fantastique l'organisation de cette planète, disent certains savants, qu'il y a là un immense miracle. Car tout se tient sur cette planète. C'est pourquoi nous devons respecter l'ordre de cette planète, l'organisation de cette planète, ce que nous ne faisons pas malheureusement, et que nous devrions faire. Nous devrions respecter cette planète, respecter nos corps, respecter les malades, les guérir, les aider, ce que fait l'Église d'ailleurs avec tant d'intensité depuis des siècles et des siècles. L'Église a peut-être trop insisté sur l'apport de la souffrance, mais la souffrance, c'est pas elle qui sauve, c'est l'amour. Et c'est au creux de la souffrance qu'on peut crier vers Dieu, « Mon Dieu, tu m'as choisi en somme. » Tu pourrais me guérir, mais, vous savez, il y a une belle histoire racontée par un médecin, le docteur Edward Ritzenhaler, sur un garçonnet de 14 ans, qui est petit pour son âge, qui était maigre, qui avait le teint bistre, dit-il, avec de grands yeux bruns très expressifs, infiniment doux et profonds. Et le médecin dit qu'il l'avait observé à son insu, alors qu'il fixait ce petit garçon avec une attention lumineuse de la fenêtre de la salle des malades, il fixait la grotte à Lourdes, où l'on voit très bien de l'accueil Sainte Bernadette, n'est-ce pas, par de l'Algave. Il était logé là. Et pourtant, son dossier médical était préoccupant, très préoccupant. Cet enfant souffrait d'ostéocarcinome, de la tête du péroné à la jambe droite. C'était confirmé par biopsie, c'était traité par chimiothérapie. Puis enfin, je vous fais grâce du reste. Et le médecin dit qu'il était triste pour ce gamin, sachant qu'une affection de ce genre est presque toujours irrémédiablement mortelle en dépit des traitements. Eh bien, l'enfant a été guéri, et on a eu l'impression d'un miracle. Mais chose étonnante, ce n'était qu'une rémission. C'est-à-dire que la maladie est revenue. Et alors, c'était surprenant. En 87, au printemps, ce médecin a reçu le dossier de demande d'admission de ce petit garçon qui s'appelait William. Admission pour monter à bord du train blanc qui mène à Lourdes au mois d'août. Et puis son médecin traitant signalait que le petit William se portait parfaitement bien. Puis en août, il dit, je retrouve donc William, grandi, forci. Il était guéri, puis à la fin du mois, il est amputé de sa jambe finalement. lorsque les métastases avaient envahi tout son organisme. L'année suivante, au début d'août 88, il dit « J'ai retrouvé William avec mes valades. » Il ne pouvait rien avaler. Puis il dit qu'il est mort, à la fin d'août 1988. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? C'est que le sens de la rémission totale de près d'un an est apparu à ce médecin, et au dire des témoignages là, absolument irrécusables de ceux qui l'ont accompagné de très près jusqu'à sa mort, c'est que Dieu voulait qu'il témoigne. Et cet enfant a témoigné. Bon, d'accord, il avait une maladie grave, mortelle, l'absence de traitement ou traitement inefficace, puis il y avait une guérison instantanée, mais elle n'était pas totale. Et cet enfant est devenu un enfant absolument extraordinaire. La rémission temporaire de cette maladie grave avait une dimension spirituelle, dit le médecin, qui mérite de ne pas être passée sous silence. Cet enfant disait, c'est là, au milieu des enfants abîmés par le cancer, que j'ai rencontré Jésus. Mais voilà, c'est un enfant de 14 ans qui parle, hein. Il dit, j'admire la foi de ces petits. Ils savent souffrir et mourir, simplement. Ils sont vrais et confiants jusqu'au bout. Or, notre petit William, dit le médecin, était avide de connaître Jésus et déjà, il se rend compte qu'il a une mission. Et l'enfant dit, « Vous qui soignez les malades, dites-leur que toute souffrance a un sens. » Je vous le rappelle, il n'a que 14 ans. Hein? « Vous qui soignez les malades, dites-leur que toute souffrance a un sens, qu'elle est utile à d'autres, qu'ils ne se découragent pas. » Alors, William est absolument conscient qu'il va mourir. Il déclare, « Je ne remercierai jamais assez le Seigneur d'avoir permis cette maladie. Sans elle, je ne l'aurais jamais rencontré, connu et aimé. J'aurais peut-être fini en prison. Je veux offrir à ce Jésus ma vie, mes souffrances, ma mort et tout ce qui précédera pour tous les hommes, tous les pécheurs, pour sauver les âmes. C'est la mission que Jésus me confie. Oh, je n'ai pas peur. » Il a répété ça jusqu'à sa mort. Hein. « Je suis pressé de vivre avec Jésus auprès de lui. » Là, il avait 15 ans. C'est l'amour pour Jésus et pour les autres qui le portent, hein, au creux de sa souffrance. Il ajoutait, « Ce que je crains le plus, c'est de refaire un péché en n'étant pas assez fort et courageux, en ne luttant pas assez contre ma maladie, parce qu'être triste est un péché. » Un chrétien ne devrait jamais être triste. Je vous le répète encore, il a 15 ans. Il continue. J'ai de la chance d'avoir été 4 fois lourde cette année. C'était grâce au soutien moral puis matériel aussi qu'un groupe lui apportait, évidemment. Et le petit William ajoute, je n'y vais pas pour être guéri, mais pour avoir la chance de supporter avec Marie ce que le Seigneur attend de moi. En somme, les plus grands miracles qui ont lieu à Lourdes ne se voient pas, ne s'expliquent pas. Il disait, ces petits garçons, ces miracles les plus extraordinaires se passent au plus profond de l'âme. C'est incroyable, c'est pour un enfant de 15 ans, c'était un saint. C'est un autre témoin qui a raconté que, au cours de son premier séjour en hospitalisation, les médecins avaient proposé une nouvelle cure de chimiothérapie. Alors, il avait refusé, puis un peu plus tard, il avait dit à l'infirmière, « Oh, faites-la tout de même. La Sainte Vierge ne serait peut-être pas contente que je ne sois pas soumis. » Alors, William, dit le médecin, a prononcé encore bien d'autres paroles, « Mais pour nous adultes, quelle leçon de la part d'un gamin de 15 ans? Ceci sur son plan personnel. » Mais depuis apparaît dans sa vie et depuis une action sur son milieu de vie, son environnement. La sœur infirmière, après le décès de William, rencontre des blousons de cuir noir, là, des gars, des motards, quoi. Des petits motards du quartier qui l'attendent devant chez elle. Deux sont des durs qu'elle connaît bien. Elle les connaît, elle leur a déjà parlé. Ils étaient silencieux. L'un dit, ma sœur, on veut causer. Et on veut se parler, c'est l'expression française. On veut causer. Pourquoi lui qui n'avait jamais fait de mal. Nous, cela serait normal avec toutes les conneries que nous faisons. Et la sœur apprend de ces gars-là que William les faisait appeler régulièrement, individuellement, durant les derniers mois de sa maladie. Puis après les salutations d'usage, ben William, 15 ans, disait invariablement aux copains qu'il avait fait venir, « Oh, tu sais, pour pas perdre de temps, il faut que tu pries avec moi. » Puis là, le jeune reprenait invariablement, « Mais je sais pas prier, moi. » Et William le dit, « Mets-toi à genoux et répète après moi. Je t'expliquerai. » Là, il disait, « Je vous salue, Marie. » Courageux, ce petit gars, hein? Et depuis, bien, des jeunes viennent prier presque tous les jours la Vierge avec William. 5 à 17 gars, des fois, selon les jours. Bien d'autres témoignages n'ont pu être recueillis, puis il y en a de beaucoup. Alors, le peu que livre ce médecin dans ce texte à nos réflexions s'arrête là, mais il dit « Ce que j'écris est vrai et continue à être vécu en vérité. » Une rémission totale d'un an n'est-elle pas dans l'optique du Seigneur Tout-Puissant? Une manifestation d'amour qui confère au miracle la réalisation d'une mission, bien que courte. Quoique la vie publique au fond de notre Seigneur, quand on y pense, ça n'a pas dépassé 3 ans. Hein? Mais cette rémission qui a marqué et continue de marquer une communauté marginale de ces petits gars, des blousons, des délinquants, à qui il fallait temporairement et pour toujours un petit berger, hein? Un petit William. Et en ce qui concerne le médecin, il dit qu'il est à la retraite, mais qu'il est familier de Lourdes. Il dit, « Je crois que confier simplement à William toutes nos peines et nos soucis, surtout concernant les enfants malades, les nôtres, ceux des autres, ceux du monde entier, les jeunes en marginalisation, compléterait en plénitude l'appel que le Seigneur nous fait parvenir à travers la limpidité de son témoignage, maintenant et pour toujours. » Car le témoignage de ce petit garçon me rappelle un film que j'avais vu, fait par Malcolm Muggeridge, ce grand journaliste britannique. Il avait fait un film, lui qui en a fait sur Mère Teresa. Il avait fait un film sur un petit garçon anglais qui partait comme ça dans un train en pèlerinage à travers la France, et puis il se rend jusqu'à Lourdes, et puis il revient chez lui, puis il n'est pas guéri. Alors, il est toujours à la fenêtre chez lui, au rez-de-chaussée, puis il regarde le parc, il voit les petits garçons de son âge qui jouent au football britannique, là, anglais. Il les envie un peu, il a le sourire aux lèvres, et les garçons viennent lui parler à la fenêtre de temps en temps. Et puis, on lui dit, « Tu dois être malheureux, la Vierge ne t'a pas guéri. » Oh, il dit pas du tout, il dit, « Elle a guéri mon cœur. » Elle a guéri mon cœur et maintenant je les regarde jouer, mes petits copains, et je ne les jalouse plus. Ce n'est plus pareil. Je me réjouis pour eux, mais je me réjouis pour moi-même parce que je sais que au cru de ma maladie, le bon Dieu m'aime et la Sainte Vierge aussi. C'était très très beau comme film, un très très beau film.